Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'analyse d'audience de sites web. Les enjeux et la présentation du logiciel libre Matomo. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique musicale d'Éric Frodin sur l'artiste Darren Curtis et aussi la chronique de Véronique Bonnet sur le thème développement durable et logiciel libre. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 22 juin 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Le fil rouge de la musique libre. Dans cette chronique, Éric Frodin, créateur du site Au bout du fil, nous fait découvrir des artistes ayant opté pour la libre diffusion de leurs œuvres musicales. Aujourd'hui, Éric nous fait découvrir l'artiste Darren Curtis. Alors je précise que c'est une rediffusion d'une chronique déjà diffusée le 15 décembre 2020. On se retrouve dans 7 minutes. Fil rouge de la musique libre. Dans cette chronique, Éric Frodin, créateur du site Au bout du fil, nous fait découvrir des artistes ayant opté pour la libre diffusion de leurs œuvres musicales. Aujourd'hui, Éric nous fait découvrir l'artiste Darren Curtis. Bonjour Éric.
Oui, bonjour Frédéric.
Eh bien, je te laisse la parole.
Merci. Oui, donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un artiste autodidacte américain, Darren Curtis, originaire du Maryland. Alors, cet artiste est également connu sous le nom de Desperate Measures, et il publie chaque année une collection de titres sous licence Creative Commons by Attribution 3.0. Alors, je vous propose de revenir sur son album Royalty Free Fantasy, The Beginning Years, et écoutons ensemble Journey's Reflection, le premier titre de cet album, et on se retrouve juste après pour la review.
Cause commune,
93.1. We'll be right back.
venez d'écouter Journey's Reflection de Darren Curtis, un titre sous licence Creative Commons by Attribution 3.0. Un morceau qui nous plonge instantanément dans l'univers héroïque fantastique. L'orchestration est sublime. On se voit dévaler la contrée en compagnie de Frodon et Sam. Je regrette simplement que la musique soit coupée quelques secondes à la fin. C'est peut-être intentionnel. Dans tous les cas, ça n'enlève rien à la qualité de cette musique. Ce morceau est donc le premier titre issu de l'album Royalty Free Fantasy The Beginning Years, composé de 22 musiques. C'est tout simplement impressionnant. Je vous invite à vous rendre sur la page Bandcamp de l'artiste pour découvrir les musiques de l'album, mais également les autres albums mis à disposition. Depuis son adolescence, Darren a toujours eu un coup de cœur pour les musiques instrumentales et les bandes originales de films ou de jeux vidéo. Souvent, ce sont des musiques qui, sans avoir besoin de mots, arrivent à exprimer encore plus d'émotions qu'une musique ordinaire avec des paroles. C'est cette idée-là qui a séduit Darren Curtis très jeune et lui a donné envie d'apprendre à jouer du piano. Il s'est lancé dans la musique de manière complètement autodidacte et aujourd'hui il compose et produit ses propres morceaux sans se restreindre à un seul genre musical. Darren a composé Royalty Free Fantasy The Beginning Years de 2013 à 2016, au tout début de sa carrière de compositeur. Malgré tout, on ressent une étonnante forme de maturité émanant de cet opus. Vous aurez l'occasion de le constater par vous-même, car vous allez écouter d'autres titres comme A Time Forgotten, The Death March et peut-être Dreamscape dans cette émission. Des musiques toujours issues de ce premier album instrumental. Si vous souhaitez en savoir plus sur Darren Curtis, rendez-vous sur son site internet www.darrencurtismusic.com. Vous pouvez également le soutenir avec des donations sur Patreon, patreon.com/darrencurtismusic. Voilà, j'en ai terminé.
Ben, merci Eric pour cette découverte. Et comme tu le dis, on va écouter, toutes les pauses musicales du jour seront de Darren Curtis. Donc la page Bandcamp de Darren Curtis, ben, c'est darrencurtis.bandcamp.com. Darren, il y a deux R. Et nous mettrons également les références sur le site de l'April, le site de la radio. Hein, et ces musiques sont sous licence Creative Commons Attribution, CC BY, donc qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de la musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. En tout cas, je te remercie pour cette chronique musicale.
Merci à vous.
Donc, nous sommes de retour en direct. Donc, c'était la chronique musicale d'Éric Frodin consacrée à l'artiste Darren Curtis. Nous allons d'ailleurs faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous parlerons d'analyse d'audience de sites web, des enjeux et la présentation du logiciel libre Matomo. Donc l'artiste qui va nous accompagner musicalement l'émission du jour est donc Darren Curtis. Nous allons écouter A Time Forgotten par Darren Curtis. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Et oui, comme l'a dit Eric Frodin dans sa chronique, ça se coupe brutalement. Nous venons d'écouter A Time Forgotten par Darren Curtis, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Le site de l'artiste, c'est darrencurtismusic.com. Et vous trouverez également une présentation de l'artiste sur le site d'Eric Frodin, auboutdufil.com.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'analyse d'audience de sites web et le logiciel libre Matomo avec nos deux invités en studio, ce qui est assez exceptionnel vu les conditions, vu que la dernière fois que nous avons eu des personnes en studio pour le sujet long, eh bien ça date du 10 mars 2020, c'est-à-dire une semaine avant la date du premier confinement, donc c'était un grand plaisir de vous avoir en studio. Donc avec nous, Alexandre Bulté, directeur de technique d'Etalab. Bonjour Alexandre.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo. Bonjour Ronan.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Alors donc nous allons parler donc, d'analyse d'audience de site web et du logiciel Matomo. Mais avant de commencer par le sujet, on va commencer par une présentation peut-être personnelle rapide non, de vous présenter. Donc on va commencer par Alexandre Bulté.
Oui, bah, merci beaucoup de me donner déjà cette occasion de s'exprimer en studio, dans ces studios historiques. Enfin, je suis ravi. Alexandre Bulté, donc je suis directeur technique d'Etalab. Etalab, c'est un département de la DINUM et notre mission, c'est d'ouvrir, partager et valoriser les données publiques. On fait ça au niveau interministériel, puisque la DINUM, c'est la Direction Interministérielle du Numérique. Donc ça veut dire que c'est pas nous qui faisons tout à la place des ministères. Mais on essaye d'insuffler, de montrer la voie, de mettre à disposition des outils pour tout ce qui est, on va dire, politique de la donnée dans l'État français. Historiquement, et notre produit le plus connu encore aujourd'hui, c'est data.gouv.fr, donc la plateforme ouverte des données publiques françaises, l'open data, comme on dit en mauvais français. Voilà, donc moi je suis arrivé chez Etalab il y a 4 ans, après un parcours assez classique, on dit ESN maintenant, je crois, avant à mon époque.
Entreprise de services numériques,
voilà.
C'est ça.
On disait société de services en informatique à l'époque. Et j'ai toujours trempé depuis ma première Red Hat 9, il y a un petit moment maintenant, dans l'open source. Ça a toujours été important pour moi d'utiliser des logiciels open source, notamment dans mon travail. Donc voilà, quelque part, j'ai trouvé une certaine continuité chez Etalab et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir échanger sur un logiciel libre tel que Matomo ici.
D'accord. Alors le site d'Etalab, c'est etalab.gouv.fr sur lequel on retrouve toutes les informations. Ronan Chardonneau.
Ouais, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc bon, en ce qui me concerne, moi je suis formateur indépendant, consultant sur Matomo Analytics à temps plein, ou en tout cas 70% depuis maintenant 2015, on va dire année à laquelle j'ai décidé de prendre ce pari un petit peu foufou de développer toute une activité autour de Matomo exclusivement. Je suis également un maître de conférence associé à l'IAE d'Angers que je salue depuis 2012. Ça va bientôt faire bientôt 10 ans que j'enseigne le marketing digital là-bas. Et j'ai eu la chance en fait de travailler au sein de l'équipe de Matomo de 2017 à 2019. En fait, j'ai été vraiment le premier employé hein, de leur équipe, en tout cas de la nouvelle structure que Mathieu Aubry a créée, c'était en 2016. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans pour eux avec un décalage de 12 heures avec la Nouvelle-Zélande puisqu'ils sont situés en Nouvelle-Zélande et j'ai la chance d'être en tout cas cette spécialité que j'ai développée qui est d'être un marketeur mais vraiment qui fait du marketing avec du logiciel libre, donc ce qui est un petit peu ce qui est pas courant quand justement l'univers du marketing digital est surtout dominé par des solutions telles que Google, Microsoft et autres.
D'accord. C'est vrai que marketing digital, on entend assez rarement ici, mais on va y revenir. Ton site web, je précise, c'est ronan-chardonneau.fr. Et je précise que toutes les références qu'on citera au cours de l'émission, on mettra un lien, enfin tous les liens sur la page consacrée à l'émission sur les sites april.org et causecommune.fm. Donc voilà, comme ça, vous n'aurez pas tout noté. Alors, avant de parler de Matomo, qui est l'outil logiciel dont on va parler aujourd'hui, on va commencer par la question, c'est pourquoi utiliser un outil d'analyse d'audience ou de marketing de site web, on va commencer par ça. Ensuite, on parlera du plus connu, en tout cas de celui sans doute que les gens connaissent le plus et des problématiques qu'ils peuvent poser. Et on finira évidemment avec une grosse partie sur Matomo. Mais déjà, donc la première question, pourquoi faire de l'analyse d'audience, du marketing de site web comme tu as parlé? Tu as parlé plusieurs fois du terme marketing. Qu'est-ce qu'on cherche à mesurer? Voilà. Pourquoi on fait ça? Prenons en charge de nous.
Ouais, alors vraiment la base dans l'analyse d'audience, c'est on peut pas améliorer quelque chose qu'on peut pas mesurer. Vraiment, ça c'est vraiment le point fondamental. Donc on est sur des logiciels qui sont là pour analyser en fait ce qui se passe à l'intérieur du système d'information dans lequel on l'a embarqué. Donc que ce soit un logiciel, que ce soit un site internet, que ce soit une application mobile, que ce soit on va dire même un objet connecté. Enfin bref, tout système d'information. Le but d'ailleurs, c'est d'analyser plusieurs choses. Alors généralement sur les solutions d'analyse d'audience, j'ai envie de dire grand public, hein, comme Matomo Analytics, c'est vraiment, on va analyser les caractéristiques de l'utilisateur, donc ça répond à la question de qui. Ensuite, on va analyser qu'est-ce qu'il fait, donc ça c'est plus la partie comportementale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il utilise l'application, quel écran il regarde, quelles actions il effectue, est-ce qu'il est en train de scroller, où est-ce qu'il a appuyé, où est-ce qu'il a cliqué. Donc ça c'est vraiment cette deuxième partie, la partie comportementale, et souvent la troisième partie qu'on va mentionner, ça va être comment il est venu, comment il a connu du coup cette application ou le site internet, qui est du coup la partie acquisition. Et puis après, en fonction du logiciel qu'on a, on a différentes briques qui peuvent venir se rajouter. Typiquement avec Matomo, on a ce qu'on appelle la marketplace, le concept de plugin, qui vont permettre de rajouter plein de fonctionnalités en plus, hein. Donc typiquement on peut imaginer des cartes qui vous montrent comment la souris de l'utilisateur se balade sur l'écran, ou au contraire les informations qu'il enverrait par l'intermédiaire d'un formulaire, ce genre de choses.
D'accord, alors ça me fait penser que j'ai oublié, parce que je vois une remarque sur la salle web de la radio, j'ai honteusement oublié de dire que vous pouvez participer à notre échange en posant des questions ou faisant des remarques, donc sur le salon web dédié à l'émission, donc le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et donc je vois déjà une première remarque de Marie-Odile, donc c'est Marie-Odile Morandi, hein, notre célèbre transcripteuse de... Je sais pas si ça se dit transcripteuse, en tout cas qui fait de très nombreuses transcriptions pour le site librealire.org, et qui nous dit c'est un peu indiscret tout ça. Alors effectivement, Renan, est-ce que là tu as parlé effectivement de parcours de visite, etc. Donc ça veut dire que on surveille ce que fait la personne qui va sur notre site web.
Alors cette notion de on surveille qui, faut savoir qu'elle est quand même aujourd'hui bien résolue, hein, puisque avec tout ce qui est RGPD, mais aussi tout ce qui était les lois avant, hein, qui était tout ce qui est la loi sur les paquets télécoms, ce genre de choses, de plus en plus rentrent les critères d'anonymisation. Qui font que on peut pas réellement savoir au final, enfin si, on peut techniquement savoir ce qui se passe, mais on est un petit peu dans l'illégalité, hein, quand on regarde justement les dernières lignes directrices qui ont été dictées par la CNIL et qui datent de mars de cette année. Là on est clairement sur on n'a pas le droit de descendre à un niveau plus bas que l'utilisateur. Enfin, on n'a pas le droit justement de récupérer des données qui concernent l'utilisateur, ça doit être uniquement des données agrégées. Donc à partir de là, on est, on va dire, sur du global, sur des tendances, on n'est pas au niveau de l'utilisateur, à moins que naturellement on ait son consentement, mais là on passe dans une autre partie qui est, de toute façon on a eu l'accord de l'utilisateur pour justement analyser ce qui se passe. Faut bien garder en tête que la finalité quand même, c'est là pour améliorer leur expérience. C'est le fait qu'on a développé un système d'information, mais on sait toujours pas ce qui marche ou ce qui marche pas, et le fait de tenir simplement sur son ressenti personnel, sur ce qu'on pense qui est vrai ou pas, ça suffit pas. Il faut justement à un moment donné se mettre à la place de l'utilisateur, savoir ce qu'il est réellement en mesure de faire, et voir qu'en fait on a des gros décalages entre ce que nous on pensait qu'il réalise sur le site et en réalité ce qu'il réalise. Donc ces outils là hein,
le but, donc c'est pour améliorer finalement le parcours de la personne qui utilise.
Exactement.
Je vais juste préciser que donc RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données qui date de 2018, je crois, ou 2019, et la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, bien connue, à qui il manque, on va le préciser encore une fois, beaucoup de moyens humains pour faire appliquer les règles, je me le permets de le dire. Alors, on va revenir évidemment sur marketing, sur les raisons de l'analyse d'audience, Renan, mais Alexandre Bulté, donc toi, tu es directeur technique d'Etalab. Alors, finalement, pourquoi Etalab a choisi de faire de l'analyse d'audience de site web, et de quel site web, d'ailleurs, vous faites l'analyse d'audience?
Alors, le projet, quelque part, dont on parle, c'est stats.data.gouv.fr. Donc, pareil, on mettra l'URL en référence, ce sera plus simple. C'est, en fait, au départ, en 2013, je crois, donc au lancement de data.gouv.fr tel qu'on le connaît aujourd'hui, en gros, c'est-à-dire une plateforme ouverte, participative, avec pas mal de fonctionnalités de type social, on veut savoir, comme le dit 10 euros, non, ce qui marche pas, quels sont, où vont les gens, que font-ils, que se passe-t-il. Et à ce moment-là, on monte cette instance de stats.data.gouv.fr pour commencer à recueillir quelques métriques sur ce qui se passe sur le site. Et il y a eu une espèce de comment dire, une espèce de une mayonnaise qui a pris à la Dinum, notamment avec nos cousins de beta.gouv.fr, l'incubateur des startups d'État, qui ont trouvé cet outil très pratique, l'installation qu'on en avait faite très pratique aussi, et aujourd'hui on en est à plus d'une centaine de sites qui sont, j'ai même noté combien, 108, voilà.
Un peu plus. 108 sites institutionnels.
Ouais, 108 sites institutionnels qui sont traqués sur cette instance. Et donc on mutualise en fait les efforts de d'hébergement, de maintenance, de backup, de ce qu'on veut, de surveillance, de monitoring de cette instance, au-delà de pour plein de d'usages différents. Je pense qu'on est une des plus grosses, alors Ronan tu sais peut-être mieux quoi, mais à mon avis on est une des plus grosses instances Matomo ever. En tout cas elle est assez costaud, mais voilà, pour répondre à la question initiale, oui, bah c'était comme Ronan le disait, savoir un petit peu ce qui se passe sur le site, et aujourd'hui ça nous sert même de référentiel de par exemple de combien de ce jeu de données a été téléchargé, combien de fois il a été visité. C'est comme ça qu'on connaît les jeux de données les plus populaires, c'est comme ça qu'on, du coup, on connaît les attentes des usagers et les usages que peuvent faire les réutilisateurs des données ouvertes qui sont sur data.gouv.fr. Donc c'est plein de points d'éclairage pour nous qui sont hyper intéressants, à la fois pour le site web en lui-même, mais aussi pour les politiques publiques, parce que si on se rend compte que, je sais pas, le jeu de données de telle administration est hyper visité, peut-être nous dire, ah bah tiens, cette administration-là, on va essayer de travailler un peu plus en profondeur avec elle, parce que visiblement ces données intéressent beaucoup de gens, donc il y a peut-être d'autres choses à ouvrir, peut-être d'autres trucs dans les tiroirs qu'on peut sortir, et ça nous aide beaucoup pour ça.
D'accord. Alors j'ai une question justement là-dessus, sur cette visibilité et transparence de l'action publique. Ce qui m'a étonné entre guillemets, mais c'est que le site est accessible publiquement.
Tout à fait. Le
pourquoi donc avoir fait ce choix? Parce que je suppose que c'est volontaire.
Alors c'est volontaire, c'est même, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a un truc au-dessus de volontaire, mais c'est.
c'est assumé. Cas,
et... Voilà, c'est assumé, c'est encouragé.
C'est encouragé.
Tous les sites qui sont hébergés sur stats.data.gouv.fr ne sont pas forcément publics. Enfin, leur fréquentation n'est pas forcément publique. En revanche, nous, c'est quelque chose qu'on encourage, parce qu'on pense que c'est, quand je dis nous, c'est l'équipe de DataGouv et Talab, parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important d'être transparent vis-à-vis de nos usagers, qui sont le citoyen français, qui paye des impôts, qui l'État fait des choses, quelle utilité ont ces choses, comment les gens s'en servent. On pense que c'est vraiment intéressant. En plus, nous, notre métier de base, on va dire, c'est l'open data, donc les données ouvertes. Quelque part, stats.data.gouv.fr, ce sont des données ouvertes qui sont mises à la disposition du public. C'est peut-être aujourd'hui notre jeu de données le plus riche. C'est peut-être pas le plus exploité, mais en tout cas, c'est le plus riche, parce qu'on a mine de rien des données qui remontent jusqu'à 2013 sur les fréquentations de data.gouv.fr. Et cette transparence des données et des impacts des différents produits, des différents sites qui peuvent être construits, on trouve ça vertueux de pousser, entre guillemets, hein, je ne veux pas dire qu'on pousse les gens à ouvrir leurs données, mais en tout cas on les incite à les rendre publics, et c'est quelque chose, encore une fois, chez nos cousins de beta.gouv.fr, les startups d'État, qui correspond aussi assez bien à leur philosophie justement de produits par l'impact, quoi, de par l'impact, avec une certaine transparence dans une évaluation par
justement ce que tu disais tout à l'heure,
et une évaluation permanente, voilà. Je sais, par exemple, dans le manifeste beta.gouv.fr, il y a on a l'obligation d'avoir une page /stats public avec quel est l'impact de mon produit, et ça peut s'appuyer sur Matomo ou pas, hein, mais en tout cas c'est quelque chose de vraiment dans l'ADN des startups d'État.
Voilà. On reviendra tout à l'heure sur la raison du choix de Matomo. Là, pour l'instant, on reste sur la partie générale de la question d'analyse d'audience. Toi, comme je dis en introduction, Ronan, tu es donc consultant et formateur Matomo. Tu as dit qu'à peu près 70% de ton temps, tu travailles là-dessus. Donc, quel type de client tu as et pourquoi finalement ils viennent te voir? Est-ce qu'ils ont tous la même problématique, ou est-ce que tu as des profils différents?
Très bonne question.
Merci.
J'ai Je vais pas dire que j'ai un petit peu de tout. Je dirais que principalement les clients avec qui je vais travailler, ça va être vraiment être les grandes administrations, les grands comptes. Donc ça va être des régions par exemple, ça peut être des villes, ça va être aussi des institutions européennes, ça va être aussi des très grandes entreprises, mais pas forcément liées à l'e-commerce. En fait, faut imaginer que Matomo, contrairement à d'autres solutions bien connues que tu évoqueras peut-être un petit peu plus tard, il y a en fait tout un univers que, parce que c'est un logiciel libre qui est ouvert pour Matomo, qui est notamment la partie intranet. C'est en gros celle qu'on voit, on peut jamais voir de l'extérieur. Et en fait, ça c'est un marché qui est énorme du coup pour Matomo. Donc c'est souvent en fait des entreprises pharmaceutiques par exemple qui viennent me voir, qui ont des intranets, qui ont développé des applications qui coûtent des fortunes, et en fait ne savent toujours pas si au final les personnes, les utilisateurs hein, qui sont pas du coup le grand public, qui sont vraiment leurs clients à eux, utilisent l'application qu'ils ont développé.
D'accord, donc c'est utilisé, comme tu le disais un peu en introduction, pour améliorer l'expérience des personnes qui utilisent le produit, et pas pour les surveiller simplement, mais pour effectivement correspondre à ce que le produit vous attend, pour corriger éventuellement des parcours de visite par exemple qui seraient bizarres, parce qu'on sait très bien qu'on prévoit une application, une interface, et que les gens font souvent autre chose. C'est dans ce sens-là que c'est utilisé en interne dans des structures. Donc.
Ouais, alors pour dédiaboliser un petit peu tout ça, pour vous donner une idée des clients que j'ai eu, ou en tout cas des prospects au téléphone qui veulent vraiment faire du tracking très très intrusif, je crois que j'en ai eu qu'un seul dans ma vie où vraiment la personne elle voulait le numéro de sécurité sociale, il voulait en plus du coup le croiser avec l'âge, le genre de la personne, enfin bref tout un paquet de données. C'était d'ailleurs du côté américain, le client était américain, mais en gros j'ai jamais eu en tout cas moi de client où vraiment on veut savoir si c'est Pierre-Paul qui s'est connecté, à quelle heure il s'est connecté, pourquoi il l'a fait, et enfin, je veux dire, ça a toujours été encadré, mais même il y a des années de ça. Hein. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais eu un client où c'était, sur le site, il y a des pages qui sont liées au syndicat, par exemple. Ah bah non, mais là, en fait, dans ce qu'on appelle un plan de marquage, donc en gros, l'implémentation du code de Matomo, surtout là, tu traques pas ça, quoi. Là, parce qu'en gros, ça, c'est une zone qui est un petit peu touchy, j'ai envie de dire. Et du coup, pour répondre à ta question, ouais, principalement, moi, ça va être les très grandes organisations, les très grands comptes que je vais former. Et après, d'ailleurs, en effet, je vais avoir des clients un petit peu plus modestes. Donc, ça peut être, je vais pas dire monsieur et madame tout le monde. Enfin, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment des personnes que je vais pas vraiment considérer comme des clients. Je vais les aider comme ça sur mon temps libre, etc. Principalement, je vais plus travailler sur les très grands. Et puis, vu que maintenant il y a beaucoup de demandes, je travaille aussi pas mal avec des sous-traitants. En fait, mon rôle, c'est surtout d'arriver à former, et notamment à l'étranger, des agences ou des indépendants qui sont capables, eux, de pouvoir aussi former et fournir de la prestation de services sur Matomo à l'étranger.
D'accord. Donc, quand on reparlera tout à l'heure en détail de Matomo, on voit déjà quand même que Matomo est un outil qui est très largement utilisé et sur lequel, en plus, il y a des gens qui en vivent par du service, par de la formation et autres, par du consulting. On reviendra en détail là-dessus. Par contre, je reviens juste sur une expression que tu as employée qui est le plan de marquage. Tu l'as un petit peu expliqué aussi. Donc, je suppose que le plan de marquage, en fait, c'est l'idée de lister les besoins de collecte des données avant de réfléchir à installer et configurer un outil.
Ouais.
C'est ça.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes, dans leur tête, c'est un logiciel dans l'analyse d'audience, c'est juste un logiciel que j'installe, je déploie du coup le code pour mesurer ce qui se passe sur le site, et ça s'arrête là. Non, en fait, il faut imaginer qu'un logiciel d'audience, il y a une partie de développement exactement comme pour la création d'un site web, où c'est, en fait, il faut implémenter des fonctionnalités qui permettent de pouvoir collecter des données dont tu as besoin. En fait, par défaut, Matomo ou tout autre logiciel d'analyse d'audience, ils sont pas devins, en fait. Ils savent pas si ton site, c'est un réseau social, ils savent pas si ton site, c'est un site marchand, ils savent pas si c'est un petit site vitrine, un petit blog, etc. Donc, en fait, tout ça, il faut lui expliquer, et sa place par, moi, ce que j'appelle un plan de marquage, mais en réalité, c'est un cahier des charges qui définit, au final, ce dont tu as besoin en termes de collecte de données, pour d'ailleurs analyser si les scénarios que tu imaginais, par exemple, les personnes n'utilisent pas le menu déroulant, en fait, par défaut, l'utilisation d'un menu déroulant n'est pas mesurée par des solutions d'analyse d'audience. Donc, il faut en effet que tu rajoutes ces petits bouts de code. Et ces petits bouts de code-là, c'est ce que tu définis dans cette fameuse documentation qu'on appelle, nous, analystes, un plan de marquage.
D'accord. Alors, justement, côté Etalab, Alexandre Bulté, est-ce que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait plus d'une centaine de sites qui étaient sur lesquels Matomo était installé. Est-ce que tu as eu aussi ce genre de mise en place, c'est-à-dire des demandes un peu spécifiques par rapport à tel ou tel site? Ou est-ce que finalement c'est une installation générique entre guillemets?
Alors non, nous ce qu'on propose, propose à travers Etalab et data.gouv.fr, c'est vraiment l'infrastructure, on va dire. On n'est pas, pas du tout comme Ronan, des experts de l'analytics. Donc déjà, on n'en a pas la capacité. De toute façon, on n'a pas le temps. Notre cœur de métier, ça reste quand même d'opérer notamment à data.gouv.fr. Non, nous, on se borne à fournir l'infrastructure la plus saine possible, on va dire, notamment certains réglages par défaut qui sont plutôt respectueux de la vie privée, parce qu'on pense que par défaut, il vaut mieux être respectueux de la vie privée. Et ensuite, après, à chaque startup, à chaque site, de mettre en place son plan de marquage, son besoin de tracking plus ou moins évolué. Voilà. Et nous, on n'intervient pas sur la partie métier.
D'accord. Dernière question avant qu'on aborde le fameux logiciel dont on a évoqué tout à l'heure. Tu as parlé de grands comptes, Ronan. J'ai vu sur le site de Matomo. Bon, on l'a même pas cité. Le site de Matomo, c'est matomo.org. Et si vous voulez accéder directement sur la version française, c'est fr.matomo.org. J'ai vu qu'il y avait des grandes entreprises qui utilisaient Matomo. Mais je me souviens aussi que à un moment, tu m'as dit que tu faisais de la formation bénévole, notamment dans le cadre de WebAssos qu'on a reçu dans l'émission du 11 mai 2021. Donc une association qui regroupe des bénévoles experts du web pour venir en aide aux associations. Donc ma question c'est, donc je suppose qu'il y a des associations de toute taille, notamment des petites ou autres, qui utilisent Matomo pour leurs besoins d'analyse de sites web. Donc ce type d'association, quelle information elle recherche ? La même que les autres ou est-ce qu'il y a des trucs spécifiques ?
Ouais, c'est à peu près pareil. Donc faut imaginer que oui, il y a aussi beaucoup de demandes. Hein. Quand j'ai fait les ateliers avec WebAssos, faut imaginer, donc c'était une fois par mois, il y avait à peu près chaque fois 5 associations, ce qui est quand même pas mal, hein, parce que ça veut dire qu'il y a quand même aussi un désir du côté des associations de pas simplement mettre à disposition un site web, c'est un site web également qui marche, et aussi d'arriver à rendre vertu hein, ce cercle qui tourne autour du socle libre. Après, en termes de demandes, bizarrement, en fait, je dois dire que c'est peut-être même plus au sein des associations que j'ai cette notion, on va dire, que je trouve cette notion d'e-commerce. C'est-à-dire que j'ai assez peu, au final, de sites e-commerce qui viennent me voir pur e-commerce, hein, qui viennent me voir pour justement du Matomo. En revanche, des associations qui, elles, sont intéressées pour mesurer ce qui se passe sur toute la partie à faire un don, et ben ça, c'est justement là où je vais les avoir. Donc ouais, je dirais même que les associations sont plus intéressées justement par cette partie e-commerce qu'on va dire que les entreprises classiques que moi j'ai l'habitude d'avoir. Mais sinon, pour le reste, oui, le besoin est le même. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est que leurs besoins en termes de... Enfin, les questions qu'ils me posent, surtout en termes d'expertise, sont vraiment du même niveau. Au premier abord, moi, je m'étais attendu à ce que, OK, à chaque fois qu'une association va venir me voir, ça va être truc classique. Il faut juste expliquer ce que c'est que Matomo, mais Matomo sur le site et ça s'arrête là. Non, souvent, en fait, les associations, elles ont déjà des besoins bien pointus. Et en fait, oui, on doit parler, en effet, de plan de marquage et de nécessité de déployer du code pour pouvoir aller plus loin dans la collecte de données.
Ouais, donc si je comprends bien, l'un des objectifs principaux, c'est comment on s'arrange pour qu'une personne qui arrive sur le site web de l'association finisse par arriver sur la page de don ou d'adhésion et convertisse en faisant un don en adhésion. Je rappelle que l'April est une association, donc on a également cette problématique-là, hein, même si nous... je précise d'ailleurs qu'on utilise Matomo, mais que jusqu'à maintenant, on l'a installé, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas réfléchi à de plans de marquage et autres. Par contre, par curiosité, tout à l'heure, j'étais voir le Matomo de libralire.org, ça me permet de voir les pages populaires, et notamment actuellement une des pages les plus populaires, c'est celle autour du vote électronique, parce qu'évidemment il y a une actualité, il y a encore des gens qui veulent croire que le vote électronique pour les institutions c'est une bonne chose. Donc je vous encourage à aller sur libralire.org, il y a des articles notamment de Chantal Anguer, mais c'était un petit peu un hors sujet, mais quand même c'était c'est ce que j'étais voir tout à l'heure, et c'était les pages les plus visitées. Alors quand on parle d'analyse de site web, il y a forcément un nom qui apparaît, hein, c'est pas forcément le seul. D'ailleurs, quand on parle d'Internet, il y a un nom qui revient assez souvent. Malheureusement, c'est Google, et là en l'occurrence, c'est Google Analytics. Je suppose que de très nombreuses personnes, de très nombreux sites utilisent Google Analytics. Alors, pourquoi d'après vous déjà ces gens-là l'utilisent ? Et puis deuxième question ensuite, pourquoi ne faudrait-il pas l'utiliser ? Quel problème pose Google Analytics ? Qui veut commencer ?
Je peux, commencer. Allez, déjà sur les chiffres, je suis tombé en préparant l'interview sur une étude de WTratex assez intéressante. Pareil, je mettrai le lien. A priori, c'est 85% de part de marché, 84-85% de part de marché Google Analytics sur le marché des trackers d'audience. Et j'ai aussi remarqué que Matomo était dans le top 10, donc ça m'a fait plaisir. Voilà, ils sont très très loin hein, derrière.
Ils sont quoi, 4-5%?
Même pas, je crois 1, virgule quelque chose.
D'accord.
Bref, donc 85% de parts de marché, ça dit déjà des choses, ça dit quasi monopole, ça dit voilà. Après c'est un outil qui marche, c'est un peu le go-to par défaut des gens, ce que je peux comprendre je sais pas si on s'est pas renseigné sur les impacts, si on n'a pas écouté par exemple cette émission qu'on est en train de faire. Là où on va aller par défaut, c'est sur Google Analytics parce que c'est gratuit, parce que ça marche tout seul, parce que on clique. Bon, après on se retrouve quand même dans une interface que moi personnellement je m'en suis jamais vraiment bien sorti.
Tu veux dire l'interface graphique?
Oui, enfin je trouve que l'ergonomie de Google Analytics est particulièrement ardue. Mais bref, c'est un peu le choix par défaut et je pense que, enfin à mon avis, ça va pas plus loin que ça dans le choix.
Dans la raison du choix.
Ouais. Voilà, et après il y a d'autres. Bon, je vais peut-être laisser Ronan
sur les problèmes, tu veux
élaborer
tu veux
sur les problèmes. C'est pour ça que j'ai commencé. Hein, c'est pour pouvoir filer la patate chaude.
Voilà, mais c'est un échange. Hein, donc, Ronan, donc pour quel problème pose Google Analytics finalement?
Alors je vais peut-être d'abord rebondir sur compléter ce qu'a dit Alexandre. Donc déjà je confirme en fait les parts de marché, les sources également qu'on consulte, hein, donc ça va être Buildweave, ça va être W3Tech, hein. Après ces parts de marché elles ont quand même bien changé, je crois que pour la France là récemment quand j'ai regardé c'était 3%, là où l'année dernière ça devait être 2%, donc faut imaginer qu'1% c'est quand même phénoménal. Ensuite ce qu'il faut relativiser par rapport justement à ce top 10, c'est qu'en gros toutes les solutions qui sont devant sont des solutions qui ne nécessitent pas d'efforts pour la mise en place. Alors ça c'est énormissime, parce qu'en réalité si on avait aujourd'hui, j'ai envie de dire un parrain ou en tout cas un gros hébergeur qui viendrait se placer, qui dit ok en deux clics là tu peux disposer d'une solution d'analyse d'audience, à mon avis la donne elle serait complètement différente.
Donc ça c'est un appel à OVH, à Free, à tout ça quoi.
Exactement. En gros, c'est vraiment ça l'idée. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'as avec Google? T'as une solution qui, tu fais deux clics, ou même t'as déjà ton compte Google, t'as déjà ton bout de code, tu le mets directement sur ton site internet, tu commences à collecter tes données. Là où avec Matomo, les gens comprennent pas trop, quoi. Tu cliques et t'as un fichier zip. Ok, super, mais je fais quoi avec mon fichier zip? Ah, mais en fait, faut mettre ça sur un serveur. Ah, mais j'ai pas de serveur. Ah, mais un serveur, ça a un coût. Ah, je savais pas qu'il y avait un coût. Et directement, c'est difficile, en effet, de pouvoir faire la compétition avec d'autres. À noter d'ailleurs une excellente nouvelle, hein, depuis maintenant un petit peu plus d'un an, pour tous les utilisateurs de WordPress, l'équipe de Matomo a bossé extrêmement dur pour développer un plugin spécifiquement pour WordPress. Tu l'installes en un clic, ça utilise la même base de données que WordPress et t'as déjà ton Matomo, quoi. Donc en réalité, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez d'ores et déjà migrer en fait sur Matomo Analytics. Ça va pas vous coûter beaucoup de temps, ça va pas vous coûter d'argent. Il vous suffit simplement d'installer ce plugin là et c'est parti.
Est-ce que c'est le Webpack, Jetpack, c'est ça ou c'est autre chose?
Ah non, c'est pas le Jetpack. Je crois que ça s'appelle Matomo Ethical Analytics ou quelque chose comme ça. Tu vas dans WordPress, tu cherches le plugin et tu le trouves. Alors attention, parce qu'il y a deux plugins, il y a WP Matomo et il y a un autre plugin, et c'est l'autre plugin justement qu'il faut prendre. De toute façon c'est plutôt bien indiqué, mais c'est vraiment assez génial, quoi. Ça utilise la même base et c'est l'idéal en fait pour démarrer sur du Matomo sans avoir à passer par l'étape installation.
Et donc rapidement, c'est quoi le problème posé par Google? Je dis rapidement parce que je pense que la plupart des gens en ont conscience, mais autant le rappeler dans le cadre de Google Analytics.
Déjà, tout dépend vraiment de quelle branche on veut prendre, hein, mais je dirais le problème qui me vient surtout à l'esprit, c'est il y en a un, c'est un logiciel propriétaire, et l'autre, c'est un logiciel libre. Pour moi, tout démarre, hein, simplement dans la lecture des conditions générales d'utilisation de Google Analytics, hein. Rien que ça, en réalité, quand moi j'ai des clients qui viennent me voir, c'est parce qu'en gros, ils ont leur service juridique qui a eu la curiosité de lire les conditions générales d'utilisation. À partir de là, de toute façon, Google Analytics, c'est niet. pour tous ceux qui en effet ne les ont pas encore lus, bah, je les invite du coup à les lire, puisque ça dit clairement les choses, hein. C'est qu'en gros Google lui ne prend aucune responsabilité. En gros, s'il se passe quelque chose, vous prenez tout en pleine figure, vous vous êtes engagé via ces conditions générales d'utilisation à protéger Google si jamais quelqu'un les attaquait à vos propres frais. Si jamais vous utilisiez des services de type Google, type Google AdWords, ben en fait c'est cette carte bancaire là qui sera débitée. En fait tout ça c'est écrit noir sur blanc. C'est aussi pareil si jamais vous avez l'erreur de collecter en fait des données personnelles. Clairement là ben vous enfreignez en gros les conditions générales d'utilisation. En gros vous en prenez plein la figure si jamais il se passe quelque chose. Et puis après d'ailleurs se pose plus la question éthique de se dire mais attends mon gars. Moi, je viens sur tel site, je viens pour visiter tel site, je viens pour visiter telle entreprise. D'où est-ce que tu prends mes données, c'est-à-dire mon comportement, et que tu veux l'envoyer à un tiers, qui plus est Google, qui lui a déjà tout un paquet de données, qui peut déjà croiser avec un paquet de choses. C'est pour ça que c'est intéressant ces fameux bandeaux d'acceptation dont on parle très souvent et qu'on a vu fleurir, parce que il est clair et net que tu viens voir telle entreprise ou tu viens voir tel site internet, tu veux que tes données tu t'attends à ce que tes données ne soient collectées que par eux et pas par un tiers. En fait, c'est complètement fou cette histoire d'embarquer des trucs, qu'envoie des données à des tiers, alors que, je veux dire, tu vas voir un de tes amis, tu veux pas en plus que les données, enfin ce que tu dis à ton ami partent du coup un tiers que tu connais pas. En fait, ça a pas de sens. Et avec Matomo, ben, c'est complètement différent puisque le logiciel est installé sur vos propres serveurs, donc au final c'est le même serveur qui probablement héberge votre site internet, donc il n'y a pas cette ambiguïté de où est-ce que sont parties mes données, quoi.
D'accord. Eh ben justement, on va revenir à Matomo juste après la pause musicale, mais on va continuer notre voyage avec Darren Curtis. Nous allons écouter The Death March par Darren Curtis. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous avons écouté The Death March par Darren Curtis, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Nous allons poursuivre notre discussion. Non, j'ai oublié le jingle. C'est la fatigue. Mais c'est pas grave, tant pis pour le jingle. Alors, juste avant la pause musicale, nous parlions et nous allons continuer de parler de l'analyse de l'audience de sites web et du logiciel libre Matomo avec nos invités Alexandre Bulté, directeur technique d'Etalab, et Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo. Donc juste avant la pause, Ronan disait du mal de Google. Je ne sais pas ce qu'en pensait Alexandre, on va pas lui demander. mais en tout cas, il était question de, en gros, on va sur un site ami, comme tu disais, et puis finalement, nos données vont chez Google qui va l'utiliser pour sa pub et pour le tracing. Et je pense qu'un jour, on consacrera toute une émission d'ailleurs sur ces questions de traceurs, parce que c'est quand même passionnant. Mais comme le temps passe, on va quand même aller du côté lumineux, on va dire, de l'analyse d'audience avec donc Matomo. Logiciel libre d'analyse d'audience que tu connais bien, Ronan, parce que donc tu es formateur, comme je viens de dire. Alexandre Bulté, on rappelle stats.data.gouv.fr. Alors déjà une première question, tu l'as dit tout, très rapidement tout à l'heure, mais alors un cours historique sur d'où vient Matomo.
Alors, Matomo a été créé en fait par un étudiant à l'époque, hein, du nom de Mathieu Aubry, qui désormais est franco-néo-zélandais, c'est important de le préciser. Donc initialement, il est que français. Donc il est étudiant à l'INSA de Lyon et il lance du coup, c'est fin 2006-2007, un logiciel qui s'appelle PHP My Visit. Hein, si vous allez dans un moteur de recherche très connu et que vous tapez PHP My Visit avec un ES à la fin et non pas juste Visits en anglais avec le S, vous trouverez du coup les prémices en fait de ce qu'a été Matomo, et c'est assez marrant de voir que ça ressemble beaucoup à un autre logiciel qui s'appelle AWStat, que probablement certains d'entre vous connaissent. Et en fait, ce logiciel-là va commencer à avoir une certaine notoriété, et très rapidement, il est renommé en Piwik. Donc là, on est vraiment aux alentours de 2007. Et en fait, donc ce logiciel va avoir un intérêt de la part de la communauté, va grandir et va commencer à intéresser en fait un fonds d'investissement polonais qui d'ailleurs va en 2000, je crois que c'était en 2013 en fait, proposer la création d'une entité qui va s'appeler Piwik Pro. Alors il faut savoir que du coup le logiciel, comme je disais, PHP My Visit, est ensuite renommé en Piwik, et ensuite en 2013, je suis pas sûr à 100% des dates, mais en gros il y a vraiment cette création d'une structure qui s'appelle Piwik Pro, où le but d'ailleurs c'est de fournir des services à destination des professionnels, et à côté d'avoir également la branche du logiciel libre. Et en fait très rapidement on va se rendre compte que argent et logiciel libre, ça fait pas bon ménage, et que du coup très rapidement cette entreprise là va vouloir d'une certaine façon prendre le contrôle également de Piwik, de fermer le code source et au final de tuer le logiciel. Donc c'est à ce moment là que justement Mathieu Aubry, le créateur et j'ai envie de dire libriste dans l'âme, va se dire non mais c'est pas cette vision là moi que je veux du logiciel Piwik, et va décider en fait de dire puisque c'est comme ça, je veux vendre mes parts justement de cette société Piwik Pro. Moi c'est pas ma vision quoi, je suis pas là pour tuer mon logiciel, je vais en faire un bien commun. Et du coup il va partir de son côté, il va décider de lancer sa propre entreprise qui s'appelle InnoCraft, on va dire qu'elle est l'entreprise privée qui gère aujourd'hui, on va dire, la maintenance, on va dire, du logiciel Matomo. Et étant donné que, naturellement, communiquer sur un logiciel libre qui s'appelle Piwik avec une branche à côté qui s'appelle Piwik Pro, où en fait, cette branche-là développe leur propre version d'un logiciel en analyse d'audience, mais qui du coup est du logiciel propriétaire, ça faisait pas bon ménage en termes de communication. Donc en 2018, ils décident de se renommer et de s'appeler en fait Matomo. Donc c'est vrai que pour la communauté, ça a été un petit peu, j'ai envie de dire, je vais pas dire un traumatisme, mais en tout cas, c'est un petit peu étrange de voir ce changement de nom comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On a changé le code, etc. Non, on n'a pas changé le code, en fait, on a juste changé le nom, mais c'était nécessaire, marketingement parlant, j'ai envie de dire, pour justement montrer que, non, on n'a rien à voir avec cette entreprise-là, et que le logiciel Matomo reste et restera du coup un logiciel sous licence libre. Et ça, je pense que c'est super important, et c'est ce que j'essaye d'expliquer moi à mes clients, aux personnes qui viennent me voir, qui me disent ok, on a un ensemble de logiciels en analyse d'audience qu'on a identifié comme étant soit open source, soit libre, lequel tu nous recommandes? Et c'est là où je dis mais en fait c'est surtout le temps qui va vous permettre de te dire lequel est le bon, parce qu'en fait toutes ces entreprises là qui vont développer du logiciel à tout moment en fonction de leur licence peuvent décider en fait de retourner leur veste, de dire finalement on fait du propriétaire et en fait ton projet il est mort quoi. Donc ça je pense que c'est vraiment un point d'honneur, en tout cas c'est un des points d'honneur que j'ai d'une certaine façon porté le drapeau Matomo, c'est de dire au moins je sais que derrière il y a des valeurs qui sont partagées par la communauté et qu'il y a vraiment cette volonté d'avoir un bien commun quoi.
D'ailleurs, d'accord, on va revenir après sur la partie licence et puis les fonctionnalités, mais j'ai une question donc pour Alexandre Bulté-Létalab. Est-ce que le choix de Matomo a été pour ces raisons-là? Alors, ou pour des raisons techniques?
Je ne peux parler que par proxy puisque c'était en 2013 et je suis arrivé en 2017. Okay. Alors, pour la petite anecdote, le développeur historique de data.gouv.fr était dans la même promo que Mathieu Aubry. Donc, il y a peut-être eu des accointances à ce moment-là. Mais de toute façon, pour nous, c'était forcément un outil open source déjà parce qu'on croit au logiciel libre par défaut, on va dire. D'ailleurs, data.gouv.fr en lui-même est un logiciel libre qui s'appelle UData. Et il y avait aussi cette volonté, très certainement, d'auto-héberger parce que comme on l'a dit tout à l'heure en parlant du grand G, c'est important de savoir où sont ces données, surtout dans l'état, enfin pour moi en tout cas, en tant que directeur technique, savoir où sont les données très précisément, c'est extrêmement important, surtout quand il peut s'agir de données potentiellement sensibles et personnelles. Donc le fait de pouvoir maîtriser la chaîne de bout en bout, nous on a un serveur chez un hébergeur bien connu français, qu'on
tu peux le citer s'il y a besoin, hein,
qui est OVH et dont on est ravi, et notre installation qu'on a parfaitement paramétrée dessus et qu'on maîtrise vraiment de bout en bout, on sait exactement où tout est, et je pense que c'est extrêmement intéressant, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a continué à investir et à grandir le cercle des invités sur notre instance, c'est parce qu'on pense que c'est vertueux. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de l'idée d'avoir un matonomo en deux clics pour que ça prenne. Effectivement, ça pourrait marcher, puisque ça a marché chez nous à la DINUM, c'est parce qu'il y a une instance qui est là, on crée un compte en deux secondes, un site en deux secondes, et paf, la start-up qui est en train de se lancer, qui a même pas encore de développeur peut-être, peut déjà avoir des statistiques de consultation sur sa LinkedIn page ou autre. Donc ouais, c'est choix de souveraineté des données, de logiciels libres sont de toute façon critiques chez nous. Et donc voilà. Et je pense qu'en 2013, il n'y avait pas énormément d'alternatives possibles. Ouais. Enfin, en tout cas, pas très utilisables, on va dire, pour me souvenir de ce temps-là. Alors peut-être qu'on parlera après d'autres trucs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être d'autres alternatives qui sont intéressantes aussi. Mais bref, en 2013, c'était le bon choix à faire, quoi. Et ça reste, vu comment on a mis à l'échelle le truc, on peut dire qu'on s'est pas trompé.
D'accord. Je précise d'ailleurs que Matomo fait partie du CIL, hein, du socle interministériel du logiciel libre. Il y a plein d'autres logiciels libres qui se trouvent dessus. Hein. Le site, c'est cil.etalab.gouv.fr, mais on mettra évidemment les références sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune. On va parler un petit peu des fonctionnalités comme de Matomo, même si on a un peu parlé indirectement parce qu'on a parlé d'audience tout à l'heure. Mais juste assez rapidement, peut-être sur le modèle économique et le fonctionnement pour expliquer donc aux gens. Donc aujourd'hui, Matomo est un logiciel libre dont les principaux développements sont assurés par une entreprise donc, qui est en grande partie basée en Nouvelle-Zélande, tu m'as dit.
C'est ça.
C'est ça. Ils sont combien de personnes, à peu près ? T'as une idée ?
Je dirais qu'ils doivent être entre 12 et 15 personnes.
D'accord, donc quand même 12 et 15 personnes. Et donc, leur modèle économique à cette entreprise, c'est quoi ? C'est de vendre du service, de rajouter des fonctionnalités ? C'est quoi le modèle économique pour continuer à... Enfin, c'est quoi leur modèle économique ?
Alors, il y a vraiment trois offres distinctes. La première et la plus évidente, c'est celle de l'hébergement. Donc, en gros, tu veux en effet un Matomo qui est directement exploitable en quelques clics. Vas-y, clique ici. En effet, tu as un compte qui est disponible. Après, cette partie-là, j'ai envie de dire, c'est pas cette partie-là qui va intéresser le grand public, parce que tu es sur des tarifs qui sont celles d'une start-up qui a besoin de faire vivre ses 12 employés. Donc, je crois qu'on doit être... Je me demande si on n'est pas sur la base de $29 par mois ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que voilà, j'ai un petit site. Est-ce que tu as envie du coup de passer d'un gratuit, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment du gratuit chez le grand G, à 30€ directement, tu réfléchis, quoi. Généralement, à mon avis, tu es plus intéressé pour faire de l'auto-hébergement si tu es à la recherche du coup d'une solution à moindre coût. Et donc ça, c'est une chose, ça c'est la partie cloud. Ensuite viennent se rajouter ce qu'on appelle les fonctionnalités premium. Donc là, c'est-à-dire que vous avez en fait tout un ensemble de fonctionnalités dans Matomo, et en plus de ça, ils ont développé des plugins qui eux sont payants, donc ce sont des licences qu'on paye à l'année, qui te permettent du coup d'avoir des fonctionnalités qui te permettent de transformer ton Matomo. Généralement, ça vient transformer aussi bien au niveau du plan de marquage, c'est-à-dire pour t'éviter de faire des trucs très techniques, que pour venir te donner des fonctionnalités que n'ont pas les autres acteurs du marché. Exemple, Google. Donc typiquement, je pense à la heatmap et à l'enregistrement de session. Bon, en gros, c'est quoi ? C'est ce qui te permet de faire des vidéos de ce que les utilisateurs ont fait sur ton site. Et le troisième modèle d'affaires qu'ils ont, c'est l'offre de support, qui est là plus basée sur des bugs. Donc en gros, tu rencontres un problème avec Matomo, tu as besoin d'aide, de support tout de suite, et là, ils te répondent directement par email.
D'accord. Donc on comprend bien le modèle économique et c'est important de rappeler que voilà, il y a logiciel libre, c'est pas, ça peut être compatible avec des modèles économiques. Je rappelle que vous pouvez participer à la discussion en posant des questions ou des réactions sur le salon web de la radio, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. J'ai bien vu que la question de Tiken qui vient d'arriver dans le studio, qui assiste aujourd'hui à l'émission, je la relayerai tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure en introduction de ce que c'est que l'analyse d'audience. Ronan, tu as bien expliqué un petit peu les différents besoins. Matomo, quelles sont les principales fonctionnalités et quelles sont peut-être les plus intéressantes aujourd'hui par rapport donc à ce qu'on a dit en introduction sur l'analyse d'audience?
Ouais, alors c'est vrai que...
Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités.
Ouais, non, mais c'est simplement qu'au début, les personnes qui démarrent dans l'analyse d'audience, comme je disais tout à l'heure, elles pensent que simplement on installe le logiciel et ça s'arrête là. En réalité, tu peux, si on prend simplement l'exemple d'un site internet, en fait, tu peux collecter tout ce qui se passe tant que ça se passe sur ton site internet. Si ça sort de ton site internet, je prends typiquement le cas d'un iframe, donc en gros un site internet embarqué dans un autre site internet, là ça devient plus délicat parce qu'en fait ce qui se passe dans l'iframe, donc on va dire une vidéo que tu as mis, là en fait, vu que l'interaction elle n'a pas lieu là sur ton site internet, tu es ensuite obligé de fonctionner plus avec de l'import ou des intégrations via ce qu'on appelle des API, mais en fait tant que ça se passe sur ton site internet, tu peux tout collecter. Donc, je vais prendre un exemple qui est tout simple. Tu as une page qui a été rédigée par, je sais pas moi, par exemple Étienne. Aujourd'hui, Matomo, qu'est-ce qu'il va collecter? Il va te collecter en fait le titre de la page, l'URL de la page, l'heure à laquelle justement la page a été chargée par l'utilisateur, mais il ne va pas te récupérer l'information que l'auteur de cette page, c'est Étienne. Mais en fait, si cette information-là elle est présente dans ta page, tu peux venir justement la collecter avec Matomo et l'envoyer pour qu'à la fin du mois, tu saches par exemple quel auteur est le plus lu en fait au sein de ton site, et ça t'évite de faire tout un retravail de la donnée après coup qui est de flécher, de dire en fait telle page, qui c'est qui l'avait écrit, etc. Et de la même manière, tu peux lui remonter les dates de publication, tu peux lui remonter toutes les interactions qu'il y a eu avec la page, est-ce que la personne a scrollé, est-ce qu'elle a surligné une phrase en particulier, est-ce qu'elle
ça va à ce niveau de détail.
En fait, le niveau de détail, tu peux tout collecter, tout ce que tu veux, tant que ça se passe vraiment sur ton site. Tant que ça se passe sur ton site. Dès que ça se passe en dehors de ton site, par exemple, le fait que tu es face à ton écran et qu'il y aurait une photo qui serait prise de toi, bah non, ça tu peux pas tu peux pas le faire parce que ça se passe pas sur ton site. Mais tant que ça se passe sur ton site en tant que tel, tu peux le collecter. Et ça, c'est vraiment un cap psychologique en fait qui est franchi quand je suis en formation et que je leur explique, bah regarde en fait. Aujourd'hui, tu utilises 1% en fait de la solution. Voilà tout ce que tu peux faire avec 99% restant. Et c'est là où en fait il y a une illumination et ils se disent OK, en fait, c'est un vrai métier que vous faites. Bah ouais, c'est pas juste installer un logiciel, quoi.
Alexandre, je crois que tu voulais compléter.
Précisons que tout ça est possible, mais n'est ni obligatoire ni automatique. On peut tout à fait installer un Matomo qui, par défaut, collecte le moins de choses possible et que ça peut être aussi intéressant. Il y a différentes approches. Je pense que c'est les besoins du client et le cadre dans lequel il opère qui dicte la manière dont il veut configurer son instance.
D'ailleurs, précisons, même si on ne va pas rentrer dans les détails, que Matomo, avec une configuration assez simple, permet d'être compatible avec les recommandations de la CNIL et donc compatible règlement général des protections des données. Sauf si vous voulez rentrer rapidement, mais
on peut même aller jusqu'à a priori se passer de la fameuse bannière cookie en réfléchissant et en mettant son service juridique dans la boucle, parce que c'est un travail aussi.
Surtout à l'étalage, il faut toujours mettre le service juridique dans la boucle.
Non, c'est parce qu'ils sont excellents, c'est pour ça. on peut pas se passer de, c'est pas parce qu'on est obligé. Mais c'est possible, voilà, c'est une possibilité.
Alors juste
vas-y, et après je reprends les questions du site.
Juste pour compléter sur cette partie. Oui. Donc, qu'on traite là autour du RGPD, c'est vrai que Matomo par défaut est configuré pour justement être exempté de consentement, mais il ne faut pas oublier que le RGPD c'est aussi deux droits aussi qui sont très importants, qui sont le droit à l'information et le droit à l'opposition. C'est-à-dire que même si vous collectez des données qui sont anonymes sur votre utilisateur, ce qui est le cas par défaut avec Matomo, vous devez quand même de lui fournir une information. Donc après, libre à vous de le mettre soit dans un bandeau d'information, soit sur la page de confidentialité des données. Là-dessus, la CNIL est plutôt claire. Et également le droit d'opposition, qui est que même si tu collectes des données anonymisées sur l'utilisateur doit quand même avoir le droit de pouvoir s'opposer à cette collecte, même si elle est anonyme. Et ça, c'est... Certes, Matomo, il vous est donné comme ça... configuré, mais il y a quand même ces deux actions supplémentaires que vous devez mettre en place sur le site.
D'accord.
Ça c'est important. Ça ne va pas se faire dans le logiciel Matomo, ça se fait sur votre site.
Tout à fait.
Alors juste avant de poursuivre, je prends quand même les deux questions sur le salon web, puisque c'est là pour ça aussi. Alors donc Tiken qui nous demande est-ce que ça n'existe pas déjà du Matomo on-premise, je pense qu'il a voulu dire, donc sur site, je crois que c'est ça la traduction, qui veut répondre rapidement. Sachant que Tiken est derrière vous, en fait.
Oui, on-premise, oui, c'est quand on l'installe chez soi, pour moi. Et oui. Du coup, bah oui, ça existe, parce qu'il y en a chez nous, par exemple.
Ouais, okay. C'est vrai que ce mot, quand on vient de l'univers francophone et qu'on débarque sur le site de Matomo et qu'il propose ces deux options, soit on vous offre du cloud, soit c'est du on-premise, c'est vrai que c'est un petit peu... Au début, j'avais un petit peu du mal avec ce mot, et ça veut dire qu'en effet, oui, c'est directement hébergé sur le serveur de ton choix. Donc oui, tout à fait, c'est comme tout logiciel libre, tu peux le prendre et le mettre où tu veux. Ouais.
Alors effectivement, je suis sur le site de Matomo, effectivement, la formulation est un peu particulière, je ne sais pas sur la version française que ça donne, mais en tout cas, on peut l'installer, c'est l'intérêt d'ailleurs, Etalab l'a fait. Je regarde l'heure qui passe pour savoir où on en est. Côté Etalab, tout à l'heure, tiens, Alexandre, tu disais qu'il y avait aujourd'hui d'autres alternatives potentielles éventuellement. Alors très rapidement, est-ce qu'il y a des concurrents, entre guillemets, dans le monde du libre, hein, je parle bien, à Matomo?
Ouais, moi, il y en a deux qu'on n'utilise pas en prod, on va dire, mais en production en ce moment, mais que je regarde, qui s'appelle Shynet, qui est, un jeu de mots assez intelligent sur Skynet. Bref, les fans de Terminator comprendront.
Oui.
Et Plausible.io, qui sont deux alternatives assez intéressantes. Alors, on n'est pas du tout dans le même niveau de fonctionnalité que Matomo. On n'est pas sur la profondeur et les capacités de cet outil-là. En revanche, on est sur des choses qui sont par défaut respectueux de la vie privée, peut-être plus simples à prendre en main pour quelqu'un qui n'y connaît rien, parce que ça arrive. Hein. Comme le disait Ronan, c'est un métier et tout le monde n'a pas ces capacités-là. Donc c'est des trucs à regarder si vous savez, je sais pas, bidouiller, installer un petit serveur, peut-être regarder Shynet et Plausible qui sont des alternatives assez intéressante, je trouve, et qui font faut lire les pages d'éthique de manifeste qui sont sur notamment sur Plausible qui moi me plaisent bien qui sont assez intéressantes, je trouve. Et puis on parle de tracking sans cookie, on parle de tracking sans JS, on parle de choses assez intéressantes pour justement s'efforcer de collecter le moins possible, parce que moi c'est ce que j'ai retenu finalement. Oui. De tout ce que la CNIL a pu dire. Alors encore une fois, je ne suis pas un avocat, mais moi j'ai retenu un truc, c'est ne collecter que ce qui est nécessaire, voilà. Et tout ce que vous collectez, il faut qu'il y ait nécessité pour que vous le collectiez. Donc partir d'un truc qui collecte pas grand chose, ça peut être une bonne idée dans ce cadre là
Alors, autre question avec réponse rapide, je suppose, pour Ronan. Donc c'est Olicat qui demande, on fait comment pour avoir une formation?
Alors il y a un petit peu tout. Ce qui est un petit peu plus délicat, c'est vraiment d'avoir une formation en français. Faut imaginer que quand j'ai travaillé chez Matomo, moi, ce qui m'a bluffé, c'était que il y avait pas d'informations qui étaient cachées, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, eux, leur site internet, c'est vraiment tout. Donc ils y mettent toute leur doc. Elle est extrêmement bien faite. C'est juste que le site il est énorme. Mais en fait, si tu vas sur Matomo, que tu vas cliquer sur ressources ou quelque chose comme ça ou aide, là tu as différentes briques de formation, j'ai envie de dire. T'en as un qui s'appelle en gros les guides, c'est tout ce qui est dans le répertoire slash doc, et en fait c'est pour chaque fonctionnalité qui sort, ils vont développer, expliquer comment fonctionne cette fonctionnalité. Tu as une autre où malheureusement tu me retrouves, donc après faut supporter mon accent franglais, j'ai envie de dire, donc des vidéos de formation qui justement te forment gratuitement à Matomo. Sinon j'ai eu l'occasion de développer deux beaux projets, donc un avec l'association Zest de Savoir que je salue. J'ai développé un MOOC en français, alors qui est pas très à jour.
Un MOOC, c'est une formation en ligne.
Une formation en ligne. Et sinon j'ai un autre projet que j'aime énormément, qui me tient à cœur, que lui j'ai plus développé dans un cadre universitaire, qui s'appelle la Floss Marketing School.
Voilà. Floss, c'est pour free, libre, un open source software. Donc,
exactement. L'idée, c'est justement de libérer en fait les cours que je fais à la faculté pour tout le monde. Et dans cette école en ligne, donc qui est sur une brique Moodle. Tu as du coup tout un cours qui s'appelle Digital Analytics, dans lequel je forme en anglais. Je précise que toutes les ressources là sont gratuites, accessibles à tous et sous licence d'ailleurs Creative Commons. Donc en gros, si vous voulez créer vos propres formations en interne ou même à l'externe, je m'en fiche, vous allez sur le site, vous récupérez tout ce que vous voulez et vous vous faites plaisir. Après ça va être du temps à passer. Sinon, si c'est plus avoir un accompagnement en entreprise, ce genre de choses, bah là naturellement vous avez des prestataires dont moi inclus, mais si vraiment on est plus sur un mode auto-formation, il y a vraiment ces trois ressources que je vous conseille, donc matomo.org, Zeste de savoir et également la Floss Marketing School.
Alors on mettra évidemment toutes les références sur les pages consacrées à l'émission, donc sur causecommune.fm et sur april.org. Alors le temps passe super vite, vous allez avoir droit à la dernière question bientôt. J'ai juste précisé que tout à l'heure quand on parlait de on-premise en anglais, en fait sur le site en français de Matomo, c'est auto-hébergé, ce qui est beaucoup plus clair. Donc allez sur fr.matomo.org plutôt. Alors, comme je vous l'avais dit, le temps passe super vite, on pourrait faire une deuxième émission, peut-être qu'on en fera une deuxième d'ailleurs sur Matomo. La dernière question, ou après vous pourrez rajouter évidemment ce que vous voulez, en deux minutes, quels sont les éléments clés à retenir pour vous par rapport à l'analyse de site web et Matomo? On va commencer par Alexandre Bulté d'Etalab.
Ce que je disais tout à l'heure, transparence, souveraineté, auto-hébergement, je pense que c'est les vraies forces, racines de cette solution. Et après, on peut aller très loin dans l'analyse. Il y a tout un tas de fonctionnalités incroyables qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Bien faire attention à ce qu'on traque, est-ce qu'on collecte les données qu'on collecte, est-ce qu'on les fait dans un cadre qui est légal, est-ce qu'on a correctement informé ses utilisateurs. Enfin bon, ça, pour le coup, il y a un module dans Matomo qui aide à faire une checklist de qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les informations que je donnais. Donc bien faire attention à ça et utiliser quelque chose qui est bien dimensionné par rapport à ses besoins, parce que peut-être que pour traquer 4 ou 5 visites par mois, on n'a pas besoin de monter un Matomo quelque part non plus. Continuer évidemment à regarder les solutions libres disponibles, il y a plein d'approches différentes et c'est un monde riche et passionnant, et c'est pour ça qu'on l'aime.
Renaud Charbonneau ?
Ouais, moi c'est plus le formateur qui va parler, mais je dirais que si vous voulez découvrir cet univers qui est l'analyse d'audience, en fait tout démarre par le téléchargement de Matomo et son installation, et c'est à partir de là où vous n'avez pas besoin d'être expert de Matomo, de l'analyse d'audience, mais que vous allez comprendre en gros qu'est-ce que c'est que la collecte de données et ce que potentiellement derrière des acteurs propriétaires peuvent collecter. Donc le fait de voir une base de données par ses propres yeux, de voir directement qu'est-ce qu'un navigateur va envoyer en termes de données, navigateur web, lorsqu'il se connecte à un serveur web, ça c'est vraiment le palier que je conseille à chaque fois à toutes les personnes que je forme, en fait le palier psychologique qui te permet de comprendre, ah mais en fait tout ça je le savais pas, en fait tout ça avec ces solutions en quelques clics je les avais jamais vues, tandis que là en fait le fait de l'installer par moi-même, je suis en train de découvrir réellement ce que c'est qu'une solution d'analyse d'audience, jusqu'où on peut aller, comment ça fonctionne, pourquoi parfois on peut avoir des temps de chargement qui sont un petit peu plus longs. Ah bah ouais, mais c'est parce que c'est mon propre serveur, donc il y a des petits soucis en termes de performance. Ah ouais, mais c'est quoi un serveur? Ah ok, donc c'est du matériel, donc faut que le matériel il soit bon. Ah mais on parle de quoi? On parle de vraies machines physiques, etc. Enfin bref, c'est vraiment tout cet univers là qui s'ouvre à vous, et c'est là où vous faites un bond de géant en fait en termes de formation et d'éducation, parce que vous découvrez un monde que vous connaissiez pas en fait.
Ben écoutez, j'espère en tout cas, auditeurs et auditrices, que ça a été une découverte, une première introduction au monde de l'analyse d'audience de sites web et de Matomo. Tu voulais rajouter une chose?
Oui, je voulais juste rajouter une petite chose. Là, actuellement, on cherche à lancer le premier Matomo Camp, donc premier événement dédié du coup à Matomo. Et on a actuellement donc un site, matomocamp.org, sur lequel vous êtes invité justement à répondre à un sondage en ligne pour justement définir les attentes que vous avez par rapport à cet événement, qu'on va pouvoir d'ailleurs lancer lorsqu'on aura suffisamment de répondants. Donc on espère avoir au moins un millier de réponses. Et j'en profite également pour saluer un ami qui m'est très cher et qui m'a beaucoup aidé dans toute mon éducation là sur Matomo, qui s'appelle Lucas Winkler. J'avais promis de le mentionner à la radio. Voilà.
Eh bien écoute, c'est fait. En tout cas, un grand merci donc à Alexandre Bulté, directeur technique d'Etalab, etalab.gouv.fr, Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo, ronan-chardonneau.fr. Le site web de Matomo, donc fr.matomo.org, on a cité plein de choses, on va mettre à jour les pages de l'émission, en tout cas Étienne qui est en régie a déjà commencé, donc vous irez sur april.org ou causecommune.fm, vous aurez une page avec tous les liens. Donc je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle fin de journée, c'était un grand plaisir de vous avoir en studio, même si on est évidemment masqué, et avec des beaux t-shirts pour certains.
Plaisir partagé, merci beaucoup.
Belle
merci.
Fin de journée. Alors merci on va faire une pause musicale. Nous allons écouter... après la pause musicale, nous parlerons de logiciels libres de développement durable. Alors, nous allons écouter Dreamscape, toujours par Darren Curtis. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Dreamscape, par Darren Curtis, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Je vous rappelle que le site de l'artiste est darrencurtismusic.com.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Alors pour répondre à la question, est-ce que ça coupe sec les morceaux, c'est parce qu'ils s'enchaînent tous sur l'album, je ne pourrais pas dire, je ne me souviens pas. Mais effectivement, les deux premiers titres se coupaient sec et celui-là se coupait moins sec que l'autre. On écoutera l'album de Darren Curtis pour savoir. En tout cas, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique de Véronique Bonnet, présidente de l'April et professeure de philosophie. Dans ce nouveau format de chronique, Véronique va nous proposer une lecture philosophique du logiciel libre et de certains thèmes. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours. Le thème est développement durable et logiciel libre. On se retrouve d'ici 13 minutes.
Soyez les bienvenus pour cette nouvelle chronique de Véronique Bonnet. Véronique est présidente de l'April. Sa chronique est intitulée « Partager est bon ». Bonjour Véronique.
Bonjour Fred.
Alors le thème de cette chronique, c'est logiciel libre et développement durable. Nous t'écoutons.
En effet, et là vraiment tant mieux pour nous, le logiciel libre est améliorable, il est réparable, il remédie à l'obsolescence programmée, il permet de continuer à utiliser un ordinateur lorsque le programme non libre qu'il contient ne peut plus être mis à jour. Et donc au lieu de changer d'ordinateur, l'utilisateur peut changer de distribution et de logiciel. Et ceci a un impact considérable sur l'environnement. Ceci permet par exemple d'économiser des matériaux, de l'énergie, d'optimiser ce que l'humain a réalisé. Alors la notion de développement durable, c'est l'esprit de cette chronique, faire le lien avec l'histoire de la philosophie. La notion de développement durable apparaît au début des années 70. C'est un juriste, un certain John Rawls, R-A-W-L-S, qui est le fondateur de la philosophie cosmopolitique. En 1971, il fait donc paraître sa théorie de la justice. Alors c'est un texte extrêmement important parce qu'à partir de ce texte, non seulement on va penser le développement durable, on va penser le droit d'ingérence, on va penser la subsidiarité, c'est-à-dire toutes les notions qui peuplent actuellement notre réflexion. Alors de part, je commence par une opposition. Avant John Rawls, on parlait de philosophie politique. Alors qu'est-ce que c'est que la philosophie politique? On part d'un être humain, on se demande comment il évolue dans une famille, on passe ensuite de la famille au village, du village à la cité, on se demande quel est le rapport des cités entre elles, et progressivement, on arrive à la planète. Par contre, qu'est-ce qui va apparaître avec John Rawls? C'est ce qu'on appelle la philosophie cosmopolitique. On inverse, c'est-à-dire qu'on part de la planète, on se dit qu'un humain ne choisit pas quand il va naître et où il va naître, et donc on se demande comment il faudrait que la planète soit configurée pour que venir au monde soit à peu près acceptable, étant donné qu'on ne sait pas à quel moment on va le faire et où on va le faire. Et ça donne quoi? Ben ça donne que à partir d'une réflexion sur la planète, on va se dire qu'il est préférable que de toute façon cette planète fasse attention au développement durable. Il ne faut pas que toutes les ressources aient été dépensées. Il faut que sur cette planète, quand un pays se comporte d'une manière éthiquement un peu douteuse, il soit possible qu'il y ait un droit d'ingérence, il soit possible qu'il y ait une subsidiarité, de façon à ce que naître soit le plus humanisant possible, le moins risqué possible, étant donné qu'on ne sait pas dans quel pays on le fera et quand on le fera. Alors par exemple, pour le développement durable, ça consiste à dire qu'il serait bien d'emprunter à la Terre le moins de ressources possibles, dans l'idée de les lui rendre de la façon la plus adéquate sans qu'il y ait des déperditions. Je pars d'un exemple. Pour produire un gin, 10 000 litres d'eau sont nécessaires. Il faut faire pousser le coton, il faut le préparer pour pouvoir le tisser, le teindre, le laver et parfois même le délaver. Et donc, on peut s'arranger pour limiter l'utilisation de l'eau, pour éviter d'aggraver le stress hydrique qui concerne même des humains. Et donc, peut-être que plutôt que de produire du coton, on va aller vers du chanvre, on va aller vers de l'ortie, ou alors on va réutiliser le gin. Bon, pour ça, il y a des ressourceries, il y a des brocantes. Ou alors on va réutiliser seulement, s'il est abîmé, des fibres pour faire un nouveau gin. Alors l'analogie est la suivante. Dans le registre informatique lui-même, on peut aussi bien dégager, à partir de l'existant, c'est-à-dire du parc des ordinateurs et des téléphones portables, un potentiel important. Et en effet, dans le registre de l'écologie, de la réduction de la fracture numérique, dans le registre de la ville inclusive, on peut faire, avec des ordinateurs, avec des portables, beaucoup d'économies si on utilise le logiciel libre pour reconditionner ce qui ne peut pas être mis à jour dans un contexte de logiciel non libre. Et là, on est dans le partage des savoirs, dans l'équipement de personnes défavorisées et donc vers une réduction de la fracture aussi bien numérique que sociale. Alors, je vais prendre trois exemples qui illustrent le lien entre logiciel libre et développement durable. Premier exemple, on peut reconfigurer son matériel avec du logiciel libre. Alors, c'est par exemple ce qui se passe au carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Les premiers samedis, de 14h à 18h, il y a des install parties. Et là, les utilisateurs qui ne peuvent plus faire de mise à jour du logiciel non libre, de leur ordinateur ou de leur téléphone portable, après avoir fait une sauvegarde de leurs données, peuvent installer ou faire installer des distributions libres qui vont permettre de réutiliser, de reconditionner au lieu de jeter. Bon, mais pour ça, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de blocage du boot qui empêche toute nouvelle installation. Alors, ces install parties sont corrélées à des ateliers d'aide à l'utilisation, à des conférences de sensibilisation, à une dimension qui est écologique, qui est éthique. Et par exemple, pour les ordinateurs, on peut utiliser la distribution Debian, Ubuntu, Fedora, Mageia, pour GNU Linux. Bon, pour les portables, on peut utiliser Replicant, Lineage OS, F-Droid pour Android. Deuxième exemple, on peut faire intervenir des associations de récupération et de reconfiguration. Alors, par exemple, sur cette antenne, s'est exprimé Antanac, qui est une association qui n'est pas loin d'ailleurs de la radio, rue Bernard Dimet, une association loi 1901, sans but lucratif. Le matériel informatique récupéré est donc reconfiguré avec GNU Linux et préparé avec des logiciels libres en vue d'une nouvelle utilisation, puisque le don, le partage sont des axes puissants du free software. Un troisième et dernier exemple, on peut se tourner vers un collectif ayant développé une vocation cosmopolitique et tiers-mondiste. Alors, je pense en particulier à Emabuntus, qui s'est constitué en 2011. Alors, le nom Emabuntus est une synthèse d'Emmaüs, donc Association humanitaire de l'abbé Pierre, et de Ubuntu, qui signifie humanité dans la langue originelle de l'Afrique du Sud. Le but est de donner aux personnes ayant peu de moyens financiers la possibilité de posséder du matériel informatique. Bon, ce qui amène à solliciter tous les organismes privés et publics pour partager un projet social, solidaire, environnemental. En effet, on sait bien que trop d'ordinateurs jonchent les rues parce que l'obsolescence programmée est parfois vécue comme une fatalité. Et là, il y a pollution visuelle, gâchis écologique de métaux rares, irrespect de l'investissement en termes d'énergie et d'inventivité humaine. Y remédier, grâce au logiciel libre, constitue un gisement d'emploi. On va récupérer, on va réparer. Ceci ouvre des projets mobilisateurs, porteurs de synergies pour les bénévoles, opérer un reconditionnement logiciel en agissant en amont avant la décision de jeter, est apporté au crédit du logiciel libre. Et ce n'est pas pour rien que l'April est actrice pour sensibiliser au risque d'une informatique de court terme, et ce n'est pas pour rien que l'April veut privilégier l'économie circulaire. Et à ce propos, il serait intéressant que l'indice de réparabilité nouvellement instauré, fort heureusement, prennent en compte ce qu'on appelle la couche logicielle de la carte mère des ordinateurs, parce qu'il y a des couches logicielles qui peuvent bloquer le boot, alors qu'il faut laisser aux utilisateurs la liberté de changer de logiciel plutôt que de changer de matériel. La liberté, encore et toujours, Fred, et la liberté nous caractérise et elle nous importe.
Ben, tout à fait, Véronique. Et comme tu le dis, on est mobilisé sur ces sujets. D'ailleurs, actuellement, il y a à l'Assemblée nationale la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Et il y a eu notamment des amendements qui ont été déposés suite à notre travail et celui aussi de Halte à l'obsolescence programmée de Green IT, dont l'un, par exemple, justement, vise à interdire ce dont tu parlais à l'instant, c'est-à-dire interdire les techniques, y compris logiciels, dont l'objet est de restreindre la liberté d'une personne pour installer des logiciels ou systèmes d'exploitation de son choix. C'est ce que tu parlais à l'instant, c'est un amendement qui a été d'ailleurs voté avec une petite modification qui tient compte de la durée de garantie, mais en tout cas les débats ne sont pas finis. Donc c'est effectivement un sujet très important. Tu citais Antanac, je vais juste te rappeler qu'Antanac c'est les voisins de Cause Commune, les voisins et voisines, hein, au 18 rue Bernard Dimet dans le 18e, et le site c'est antanac.com. Et tu parlais des téléphones mobiles, je précise qu'à la rentrée de septembre 2021, nous devrions avoir un sujet avec une invitée qui nous parlera notamment du Fairphone. Le Fairphone c'est le téléphone réparable, c'est un téléphone dont les éléments essentiels comme la batterie, l'écran, etc., sont facilement démontables et réparables, alors qu'aujourd'hui, la plupart des téléphones sont strictement pas du tout réparables, et dès qu'une pièce tombe en panne, les personnes sont quasiment contraintes de racheter un nouveau téléphone. Et juste pour finir sur l'indice de réparabilité, effectivement, qui provient d'une loi qui a été votée récemment, il y a, je crois, un groupe de travail au niveau du ministère de l'Environnement qui a été créé et qui va sans doute intégrer un certain nombre d'éléments, et on espère qu'il intégrera les éléments dont tu viens de parler. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose en conclusion de cette chronique ?
Très bien. Je crois qu'il y a un mot-clé, c'est liberté. Liberté, bon, si les couches logicielles bloquent cette possibilité de réutiliser, là, on est en effet dans le contresens.
Nous sommes bien d'accord. Alors, c'était la chronique partagée bon de Véronique Bonnet, présidente de l'April, donc sur logiciel libre et développement durable. Excusez-moi. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
Très belle fin de journée à toi, Fred.
Donc nous sommes de retour en direct. Par rapport à la proposition de loi dont je vous parlais sur le site de l'April, april.org, nous avons mis un point d'étape et la proposition de loi maintenant va passer au Sénat. Et concernant l'émission sur le Fairphone, ça sera le 21 septembre 2021 et il y aura également I ou E, /E/E, je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc avec Agnès Crépet et Gaël Duval. Alors nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. « Alors, dans les annonces, ce week-end, il y a le second tour des élections régionales et départementales. À cette occasion, nous proposons aux personnes candidates de signer le pacte du logiciel libre afin de marquer votre engagement. Alors, leur engagement, si elles sont élues, à mettre en place une priorité au logiciel libre et au format ouvert dans leur collectivité. Nous invitons bien sûr toutes celles et ceux qui le souhaitent à contacter les candidates et candidats, particulièrement les têtes de liste pour les régionales, pour les encourager à signer le pacte du logiciel libre et aussi profiter de l'occasion pour les sensibiliser aux enjeux des libertés informatiques. Alors, la fin de saison de l'émission approche. La dernière émission, c'est la semaine prochaine, le 29 juin 2021, puis une pause estivale et un objectif de reprise mardi 7 septembre 2021. L'heure donc d'un point d'étape auquel vous pouvez participer, chers auditeurs et auditrices. Nous organisons une réunion pour échanger sur le bilan de la saison 4, préparer la saison 5. Cette réunion aura lieu vendredi 25 juin de 10h30 à 12h maximum. Cette réunion sera ouverte à toute personne qui le souhaite et aura lieu sur le serveur d'audioconférence de l'April. Toutes les informations utiles sur april.org. Si vous souhaitez accéder, découvrir les coulisses d'une radio, de votre émission, vous pouvez venir assister au direct, comme l'a fait aujourd'hui Tiken. Nous pouvons proposer jusqu'à 2-3 personnes maximum actuellement de venir au studio de Cause Commune le mardi pour assister à la mise en place vers 15h et au direct à 15h30. Le studio est situé dans le 18e arrondissement de Paris. Contactez-nous si vous êtes intéressé, sachant que la dernière émission de la saison, c'est mardi prochain, mais nous poursuivrons ces portes ouvertes à la rentrée, évidemment. Dans les conférences, j'ai noté une conférence intéressante qui s'appelle le Netmask et la plume. Alors, je précise que Netmask, ça s'écrit N-E-T-M-A-S-K, ça fera rire évidemment les informaticiens. C'est une conférence organisée donc le 30 juin 2021 en ligne sur l'histoire et l'évolution de la cybersécurité, et c'est animé par 4 journalistes experts du domaine, Marc Ollagnier, Jean-Marc Manac, Valérie Marchise et Marc Ress, que nous avons eu l'occasion de recevoir à de nombreuses reprises dans l'émission. Donc le site, c'est le netmaskelaplume.org, mais évidemment nous mettrons les références sur le site de l'April, april.org. Les événements en présentiel commencent à être réorganisés, vous pouvez les trouver tous sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Notre émission se termine. Cette 111e émission a été mise en onde par Étienne Gonu. Merci Étienne. Je remercie également les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Éric Faudin, Véronique Bonnet, Alexandre Bulté, Ronan Chardonneau. Merci également à Languin qui va monter le podcast. Merci à Quentin Gibault qui va découper le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous en répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Alors, je regarde que j'ai un petit peu de temps. Je vais mettre en valeur aujourd'hui une émission de Cause Commune. Il s'agit de Carte Blanche, la matinale du lundi de 7h à 9h, puis en podcast, proposée par Lucas Malter et Myriam Kéré. Dans cette émission hebdomadaire, ils explorent les enjeux locaux, nationaux et internationaux qui nous touchent au quotidien, positivement ou non. Au milieu de Carte Blanche, une revue de presse, l'actu, une chronique high-tech, la chronique d'Erwan sur le capitalisme, qui je pense plaira sans doute à certaines personnes. Il y a l'entretien de 8h avec des personnes invitées. Je signale que Lucas et Myriam ont récemment consacré un cycle aux enjeux du féminisme, de l'inclusivité, de la domination masculine que je vous invite fortement à écouter. Et évidemment, il y a des pauses musicales. En parlant de musique, j'aurai le plaisir de vous poser une nouvelle antenne libre musicale avant la pause estivale avec Mehdi. Ce sera mercredi 7 juillet à 21h. En attendant, la prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 29 juin. Pour la dernière émission de la saison, notre sujet principal se portera sur la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique. Elle sera animée par ma collègue Isabelle Avani. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. Retrouvez ma collègue Isa en direct mardi 29 juin. D'ici là, portez-vous bien.